Rectangle.
Avec le soutien de Sabam for Culture.
Pensais qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu. Je n'aurais pas eu le cœur de te revoir. Mais j'entends siffler le train. Mais j'entends siffler le train. Que c'est triste un train qui siffle dans le soir. Je pouvais t'imaginer toute seule, abandonnée sur le quai dans la cohue des eaux. J'entends siffler le train. Que c'est triste un train qui siffle dans le soir. J'ai failli courir vers toi. J'ai failli crier vers toi. C'est à peine si j'ai pu me retenir. C'est loin où tu t'en vas. Que c'est loin où tu t'en vas. Auras-tu jamais le temps de revenir? Pensais qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu. Mais je sens que maintenant tout est fini. Et j'entends siffler le train. Et j'entends siffler le train. J'entendrai siffler ce train toute ma vie. J'entendrai siffler ce train toute ma vie.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Soundtrack of My Life, épisode 6 sur Radio Rectangle. Nous écoutions Richard Anthony, J'entends siffler le train, titre paru en 1962, une chanson qui a changé la vie de notre invité Sébastien Ministru. Bonjour Sébastien.
Bonjour Luc.
Alors Richard Anthony, pourquoi ça a changé votre vie ce titre-là?
Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, cette chanson de Richard Anthony, elle a déterminé le fétichisme pour les disques que je vais avoir pour le restant de ma vie jusqu'à pratiquement aujourd'hui. Alors pourquoi? Parce que quand j'étais petit garçon, et quand j'étais vraiment tout petit, c'est-à-dire quand j'avais 2 ou 3 ans, je jouais pas avec des jouets. Je voulais pas de peluche, je voulais pas de petite voiture. Je voulais des disques, je voulais des 45 tours, et je jouais avec des 45 tours, mais sortis de leur pochette. Donc je jouais directement avec les vinyles. Et j'avais 3 45 tours personnel que je me avec lesquels je me promenais partout, et je dormais avec ces disques
carrément.
Ouais, Et il y en avait trois. Et une nuit, un soir, j'étais au lit et il m'en manquait un. Et j'ai fait la vie à mes parents pendant toute la nuit parce que il me manquait un disque et mon père en avait marre. Et pour remplacer ce disque, il s'est dit, on va lui en donner un autre. Et ça n'a pas marché parce qu'en fait, il m'a donné un disque avec une étiquette orange ou violette ou je ne sais pas quoi. Or, je reconnaissais, je ne savais pas lire, mais je reconnaissais les 45 tours à la couleur des étiquettes. Et celui qui me manquait, c'était celui qui avait une étiquette verte du label Columbia. Et c'était la chanson de Richard Anthony, J'entends siffler le train. Les deux autres étaient une étiquette bleue, c'était un disque d'Adamo. Et le troisième était une étiquette rouge, c'était un disque d'Enrico Macias.
Et il est passé où, ce disque de Richard Anthony?
Je ne sais pas. On ne l'a jamais retrouvé. On ne l'a jamais retrouvé. Mais vraiment, c'est la chanson qui a déterminé, je vous dis, mon fétichisme pour les disques. Et ça a duré jusqu'à aujourd'hui, hein.
Bien donc, si vous faites des brocantes, vous trouvez un 45 tours de Richard Anthony,
Marc
Columbia, 1962. Il faut l'acheter pour Sébastien. On ne présente plus Sébastien Ministrou, alors juste un peu. Homme de médias, rédacteur en chef adjoint à l'hebdo qui pique moustique, chroniqueur à la RTB, auteur de pièces de théâtre, romancier. On vous lit, on vous entend partout. Et votre actualité, Sébastien, c'est La Guerre d'Europe, nouveau roman qui vient de sortir chez Grasset. Un roman où il est question de vêtements, de très beaux vêtements, et aussi de musique, avec son héroïne fictive, Vera Di Pasquale, Vera d'Or de son nom d'artiste, dont vous retracez le parcours de manière originale en exhumant les tenues qui se cachaient dans la penderie et les tiroirs de cette garde-robe. Alors, comment est venue l'idée de cette garde-robe ?
Ben, j'avais un fantasme, j'ai toujours un fantasme. Moi, quand je vais chez les gens, j'essaie toujours d'aller dans leur chambre pour essayer de voir.
Bravo.
Je ne le fais pas, mais je suis très tenté à l'idée d'ouvrir les dressings, à l'idée d'ouvrir les garde-robes, parce que je suis assez fasciné par l'idée qu'on peut raconter la vie de quelqu'un, on peut raconter la biographie de quelqu'un en regardant le contenu de sa garde-robe. Et c'est de ce fantasme-là, personnel, que m'est venue l'idée de raconter l'histoire de Vera, donc toute l'histoire d'une femme à travers les époques, à travers sa garde-robe, puisque au début du roman, je n'apprends rien. Si vous lisez le roman, elle meurt vite, elle meurt dans les premières pages. Et donc voilà, il y a deux nièces qu'elle ne connaissait pas qui vont venir vider sa maison et qui vont devoir vider cette garde-robe. Et au fur et à mesure qu'elle trouve des pièces dans cette garde-robe, elles vont raconter, en tout cas le narrateur va raconter un épisode de la vie de cette Vera.
Alors on remonte la vie de Vera, comment on remonte un fil finalement. Moi ce qui m'a vraiment plu, c'est il y a une fascination chez vous pour la mode, parce qu'il y a des couleurs, il y a des odeurs quand on lit vos mots, c'est très précis la description de toute cette garde-robe. Et alors il y a aussi beaucoup de références sur ce qu'on a appelé parfois avec dédain la variété, cette grande variété française, fin des années 60, années 70, c'est l'univers, c'est là qu'elle traverse sa carrière de chanteuse,
oui.
Vera.
Oui, parce qu'en fait, ce sont des choses qui, moi, m'ont nourri, m'ont construit depuis que je suis tout petit aussi. Pourquoi ? Parce que quand j'étais petit, j'ai été élevé dans un milieu de femmes, avec ma mère, ma grand-mère, mes tantes, d'origine italienne, qui travaillaient elles-mêmes leurs vêtements. Donc, elles cousaient, elles faisaient beaucoup de choses à la main. Et moi, j'étais petit garçon dans les jupes, dans tous les sens du terme, de ma mère et de mes tantes. Et j'ai vécu dans ce milieu de femmes qui ressemble un petit peu à ce que Pedro Almodovar a raconté dans ses films quand il était petit garçon et qu'il voyait toutes ces femmes autour de lui. Et donc moi, j'ai vu très tôt mes tantes faire leurs vêtements elles-mêmes, et des vêtements absolument magnifiques, très à la mode. Et donc, j'ai su tout de suite ce que c'était un coupon, j'ai su tout de suite ce que c'était un patron, j'ai su assez rapidement ce que c'était faufilé, j'ai su tout de suite ce que c'était échancré, ce que c'était une fronce. Et elle travaillait, et ça, c'était très important aussi, parce que ça a éduqué mon œil et mon goût pour l'image. Elle travaillait à partir de magazines. Donc, elle travaillait à partir de magazines comme Mademoiselle H. Tendre, où on avait des modèles. à reproduire de chanteuses populaires à l'époque, mais ça allait de Michel Thor à France Gall, évidemment. Il y avait un magazine professionnel, enfin professionnel, spécialement pour la couture, qui s'appelait Burda, qui, dans lesquels on trouvait des patrons. J'étais fasciné par Burda, et aussi par Fildar, parce que ces femmes-là ne faisaient pas que coudre, elles tricotaient aussi. Et tout ça se mêlait à une ambiance où on écoutait des disques. On écoutait des disques, il y avait un électrophone dans un coin avec un chargeur et les disques tombaient les uns après les autres. Et toutes ces chansons populaires de l'époque, une fois de plus, que ce soit France Gall, Sheila, Sylvie Vartan, Herbert Léonard, tout ça, moi, ça m'a tellement marqué qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que je le sorte de moi. Et le résultat, c'est l'histoire de Vera dans la garde-robe.
Alors, vous connaissez le principe de cette émission Soundtrack of My Life. On va évoquer avec vous, Sébastien, les chansons qui ont balisé votre parcours. On évoquait Richard Anthony et le début du fétichisme pour l'objet 45 tours. Il y a aussi Françoise Hardy, en particulier cet album La Question, magnifique album qui est sorti en 1971, qui a accompagné toute l'écriture de votre roman La Garde-robe. Alors quel est le rapport Françoise Hardy, La Question et La Garde-robe?
Parce que, en fait, à un moment donné, dans l'histoire de Vera, qui est une chanteuse de variété, qui est une espèce de prolétaire du showbiz, où elle doit enregistrer des 45 tours à la chaîne les uns après les autres, et qui sont des 45 tours qu'elle trouve assez insensés, je veux dire, qui n'ont pas beaucoup de portée, certainement pas intellectuelle et encore moins artistique. Mais à un moment donné, elle veut... elle se dit qu'elle veut changer de direction artistique et elle rencontre des gens dans le showbiz qui vont l'emmener vers un projet qui lui tient fort à cœur. C'est un album brésilien qui sortira à la fin des années 60, au début des années 70, qui s'appelle Vera d'Or chante le Brésil. Et en fait, ce disque-là m'a été, je ne vais pas dire inspiré, mais un tout petit peu par cet album de Françoise Hardy, qui est un album de 1967, je crois, à La Question, qu'elle a enregistré, non pas au Brésil, non pas à Rio, comme Vera dans le roman, mais à Paris. Mais elle l'a enregistré avec une musicienne qui s'appelait Tuca, et qui est une musicienne brésilienne dont elle était tombée paf à cette époque-là. Et le disque est absolument sublime. Pour les fans de Françoise Hardy, ça reste le summum de ce que Françoise Hardy a pu faire dans les années 60. Et c'est vrai que c'est un disque qu'on peut encore écouter aujourd'hui, de la première à la dernière plage, sans absolument aucun problème. Le problème, c'est que ça a été, je pense, dans la discographie de Françoise Hardy, le disque qui s'est le plus mal vendu.
Avec Le Danger.
Avec Le Danger, ouais. Voilà.
C'était peut-être l'album le plus audacieux parce qu'elle chantait en français, il y avait des rythmes bossa, vous l'avez souligné. Et il y avait aussi les cordes, pour l'anecdote, de l'Orchestre National de Paris, orchestre dans lequel on retrouvait à l'époque une certaine Catherine Lara.
Catherine Lara.
On va écouter Françoise Hardy, la plage ouverture de cet album La Question. La chanson s'appelle « Viens ».
Quand tu voudras t'en aller.
Soundtrack of My Life sur Radio Rectangle. Après Vient de François Hardy, nous écoutions à l'instant Vénus, le tube, le seul tube peut-être de ce groupe hollandais Shocking Blue, premier 45 tours acheté par notre invité Sébastien Ministru. Nous sommes en 1969.
Oui.
Pourquoi vous achetez Shocking Blue et où vous l'achetez ?
Alors, où je l'achète, c'est dans un supermarché, c'était une chaîne à l'époque, dans les années 60, qui s'appelait Unique. Je crois que ça n'existe plus, je vais plus souvent dans le supermarché, mais je suis sûr que Unique, ça n'existe plus. Et j'achète ce 45 tours, j'ai 9 ans, 8 ans, je l'achète au Unique, sur la place de Carnion. Dès qu'on entrait dans ce petit supermarché, il y avait juste à droite un petit coin avec quelques 45 tours au mur. Et c'est là que j'achète mon premier 45 tours avec mes vrais sous. Et j'achète Venus parce que je l'entends tout le temps à la radio et que je trouve ça absolument fantastique, merveilleux, génial. Je comprends rien, hein. Mais je suis un tout petit peu déçu par la pochette du disque qui est vendue en Belgique, en tout cas à cette époque-là.
Et comment la pochette?
Mais c'est un fond jaune avec la statue, la Vénus de Milo.
Un peu facile.
Oui, et j'étais vraiment très déçu. Pourquoi ? Parce que à 8 ans, je kiffais déjà beaucoup la chanteuse des Shocking Blue, Maryse Caveres, qui avait un style pop absolument renversant. Elle avait des cuissards noirs, des mini-jupes, des tops en daim lacé avec des très très échancrés, des yeux très maquillés, un peu indiennes comme ça. Moi je rêvais d'avoir une copine ou au moins une sœur comme Maryse Caveres et j'étais déçu par la pochette quoi. Après je vous corrige, c'est pas le seul tube de Shocking Blue, il y en a eu plein d'autres. Never Marry a Railroad Man, Ink Pot, Blossom Lady, on pourrait tous les écouter, mais Venus, c'est vrai que
autant pour moi.
Venus, c'est vrai aussi, je me suis rendu compte après que de la portée du je veux dire de l'importance du single, parce que quand j'ai lu les mémoires de Kurt Cobain, de Nirvana, il faisait des listes, hein, Kurt Cobain.
Mais dans ses playlists.
Et il a mis dans une de ses playlists, de ses chansons préférées, il avait mis Venus de Shocking Blue.
Alors on va parler d'une icône, sans doute la plus grande icône féminine qui nous vient de New York, qui a marqué, qui a écrit sur New York, qui a vécu, enregistré là-bas. C'est bien sûr Patti Smith. Et en particulier son album Easter, un album, vous m'avez dit, qui renvoie instantanément à votre jeunesse. Donc l'album est sorti en 78. À quoi il rêve le Sébastien Ministru de 78 ? C'est quoi sa jeunesse ?
Ouf.
La colle.
Ouf.
Des bons ou des mauvais souvenirs ?
Bah, c'est des mauvais souvenirs parce qu'en 78, j'ai 16 ans. Et en fait, je viens de perdre ma mère. Donc, c'est vraiment un très mauvais souvenir de perdre sa maman. Et j'étais déjà pas un enfant spécialement tourné vers les autres. Mais là, je me renferme encore plus, on va dire. Mais heureusement, j'ai quand même un bon copain qui est devenu un ami dans le bled où j'habite. Il s'appelle Stéphane Consol. Et Stéphane, pour moi, il est déjà un peu extraterrestre dans mon univers parce qu'il est étudiant aux Beaux-Arts de Mons. Et donc déjà ça, moi, je trouvais ça incroyable. Et c'est lui, en fait, qui me fait découvrir, juste un peu avant, Patti Smith avec l'album Horses et puis l'album Radio Ethiopia. Et puis, évidemment, Easter, qui arrive juste après la disparition de ma mère. Et là, on l'écoute, Stéphane et moi, je crois, 50 fois par jour. Et Stéphane, il m'apprend non seulement à écouter, à découvrir, à sentir la poésie rock, la poésie électrique de Patti Smith, mais il m'apprend aussi à regarder Patti Smith. Donc, parce que bon, comme il est étudiant en peinture, il me montre ce que Patti Smith a de particulier aussi au niveau du style. Et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué. Et à quoi je rêve à ce moment-là ? Je crois que je rêve de partir quand même.
On va écouter Patti Smith, Because the Night, un morceau composé par Springsteen, ouais, dont elle avait retravaillé les paroles. Patti Smith.
Take me now, baby, here's I am. Pull me close, try and understand. Desire's hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Patti Smith, Because the Night, un choix musical de notre invité Sébastien Ministrus sur Radio Rectangle. Votre nouveau roman, vos pièces de théâtre, vos chroniques sur la RTB, votre rubrique Tac au Tac, vos interviews dans Moustique, tout ça c'est de l'écriture. La chanson, vous avez déjà rêvé d'écrire une chanson, c'est déjà fait.
J'ai fait une chanson.
Pour qui ?
Dans toute ma vie, je pense que... ça va être collecte.
Pour Shocking Blue.
Ben non, j'aurais bien aimé pour Shocking Blue. Alors j'ai écrit une chanson pour Marca. Parce que, évidemment, Marca, on le connaît bien. C'est le mari d'une de mes meilleures amies.
On a reçu ici, dans son très
Laurence, évidemment. Et c'est le papa de deux enfants qui ne veulent plus me parler. je ne sais plus, il y a très longtemps, hein, il y a 20 ans, il m'avait dit ouais, écris-moi une chanson pour le nouvel album et tout. Et donc j'ai écrit une chanson qui s'appelle Danser, mesdemoiselles. Et il était assez content de la chanson, ça l'excitait un petit peu, même parce que c'était une chanson qui parlait de lesbiennes qui dansaient sur la piste de danse et où il y avait un mec qui essayait de s'insérer entre les deux, mais ça ne marchait pas. Donc c'est la seule chanson que j'ai écrite au monde.
Est-ce qu'il y a une chanson que vous auriez voulu écrire, mais qu'un autre ou une autre ?
Oh ben, je ne vais pas dire toutes les chansons de Jacques Duval, mais en tout cas, presque toutes les chansons de Jacques Duval. À commencer par les toutes premières, celle de Lio, celle pour Vanda, hein, je dirais qu'il a écrite. Moi, j'aimais beaucoup tout de suite le Banana Split, mais j'ai encore plus aimé les deux singles suivants. Donc, c'est très précis dans ma mémoire. Hein. J'aurais vraiment aimé écrire Sage comme une image, qui est le deuxième single que Jacques a écrit pour Lio. Et je suis très jaloux de ça, parce que dès que j'entends ça, je me dis, mais ça, c'est vraiment ce que j'aurais voulu écrire, moi, autour, encore une fois, du fétichisme du disque, du fétichisme de la musique et de cette... Et de l'univers des jeunes filles. J'aimais bien l'idée qu'on se trouve dans la chambre d'une jeune fille. Voilà. Et donc, ça, j'étais vraiment... Tout de suite, je me suis dit, ce mec est vraiment un gros salopard parce que... Il a écrit vraiment la chanson que j'aurais voulu écrire. Après, il y a eu un troisième single de après le premier album de Lio qui contenait des choses vraiment magnifiques, comme évidemment Si belle et inutile. Après, il a écrit une chanson qui s'appelait Mona Lisa, qui est un truc de fou, avec une précision, avec des références, avec des citations au terrorisme, aux Brigades Rouges, à l'air du temps. Je trouvais que, voilà. Mais c'est un gros fainéant aussi, je crois. Hein, ouais. Parce que il aurait dû être beaucoup plus gainsbourgisé qu'il n'est, quoi.
Mais ce qui est incroyable aussi, c'est que dans ces textes-là, vous parlez de Sage comme une image. Quand on écoute le texte aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Mais ça pourrait être dans la bouche d'une Angèle, puisqu'on parlait des enfants de Marca il y a quelques instants, ou d'une Clara Luciani. C'est un morceau qu'on peut mettre dans la bouche de plein de jeunes interprètes.
Parce qu'il avait, et il a toujours, évidemment, s'il n'était pas aussi... s'il n'avait pas autant la flemme, parce qu'il a un sens de l'observation et une intelligence radioscopique de l'air du temps qui fait qu'à un moment donné, ses chansons deviennent universelles, quoi.
Sage comme une image, Lio.
Je ne touche personne et personne ne me touche. Je ne touche personne et personne ne me touche. Je suis sage comme une image, sage comme une image. Voyant à la page, pas pour ton visage. Je suis sage comme une image, sage comme une image. Voyant à la page, pas pour ton visage. Dans ma chambre, distraite, je contemple le téléphone qui sonne et pourtant il me semble t'avoir bien prévenu. Je ne réponds jamais, c'est vraiment gentil d'avoir pensé à moi. C'est vraiment gentil d'avoir pensé à moi, mais je suis sage comme une image, sage comme une image. Je m'ennuie, ce n'est pas vraiment grave. Les petites filles modernes ne pleurent pas car elles savent. Elles n'attendent personne, elles préfèrent jouer seules et apprendre à mener le jeu comme elles le veulent. J'aime, me parle et me protège. Il n'y a qu'à les jouer pour que la nuit s'abrège. Les pochettes défilent et j'aimerais assez pouvoir être comme elle de papier glacé. Pouvoir être comme elle de papier glacé. Je suis sage comme une image, sage comme une image. Regardez à la page, pas pour ton usage. Je suis sage comme une image, sage comme une image. Je suis sage comme une image.
Radio Rectangle, Soundtrack of My Life, nous écoutions Sage comme une image de Lio, chanson que notre invité Sébastien Mistreux aurait voulu écrire, mais c'était Jacques Duval qui l'a écrite. Nous restons dans les années 80, on franchit la Manche, on va jusqu'à Manchester, on va parler des Smiths, un groupe qui vous a beaucoup marqué, l'album de Queen Is Dead. Un album qui a pour vertu, m'avez-vous dit, de vous arracher des larmes. Enfin, je ne sais pas si c'est une vertu.
Oh, ben moi, oui, hein, parce que moi, je fais partie des gens qui aiment bien pleurer en écoutant des disques. Et voilà, c'est une espèce de plaisir coupable ou de plaisir masochiste, de bien aimer verser des larmes en écoutant des chansons. Et The Queen Is Dead, il y a deux chansons qui, à chaque fois, dès que je les entends, il y a There Is A Light That Never Goes Out, qui me fait vraiment pleurer, et une autre chanson qui s'appelle It's Over, qui me fait aussi beaucoup pleurer. Et voilà, et donc je sais que mon mari, par exemple, quand il entend que je commence à mettre des disques de Queen, il souffle, parce qu'il me dit « Ah non, on ne va pas recommencer, quoi. » Je veux dire, c'est automatique chez moi. Et donc après, je veux dire, j'arrête de les écouter, je peux rire et tout. Mais les chansons, instantanément, provoquent, ces deux chansons-là, en tout cas, il y en a d'autres, hein, des Smiths encore, qui provoquent instantanément des évacuations lacrymales.
Encore aujourd'hui, quand vous réécoutez de Smith, c'est le même effet que lorsque vous avez découvert cet album pour la première fois.
Oui, vraiment. Et je me replonge carrément. Je sais plus, on était en quelle année, 1984.
1986.
86, voilà. Je me replonge dans l'époque. Je sens très bien ce que j'ai vécu à ce moment-là, ce que je ressentais au niveau sentimental, au niveau familial et tout. C'était pas non plus une super période pour moi. Et donc, voilà, il y a une espèce d'automatisme. Ça, vous mettez « There is a light that never goes out », je pleure.
Mais on va pleurer un petit peu. De Smith, « There's a light that never goes out ».
Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Drive your car. I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh, please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a tent-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the dark and underpass, I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight, oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one. I haven't got one. And if a
De Smith en 1986, extrait de l'album de Queen Is Dead, c'était There's a Light That Never Goes Out. On est dans Soundtrack of My Life, les soundtracks, les bandes originales, c'est quelque chose qui vous nourrit, vous passez ça pour écrire, ça vous inspire?
Oui, parce que j'écoute beaucoup, beaucoup de musique instrumentale, donc j'écoute pas mal de soundtracks qui ont été composés par des artistes d'aujourd'hui, qui travaillent vraiment, on va dire, la musique électroacoustique. J'écoute beaucoup les soundtracks de Max Richter, d'Olaf Fürarnald. J'écoute beaucoup aussi les soundtracks d'Hildur Guarnadóttir, qui a fait le fameux Joker. Johan Johansson aussi, j'aime beaucoup ça. Outre le fait que j'aime beaucoup écouter des soundtracks historiques, genre les Michel Legrand, les Parapluies de Cherbourg ou les Demoiselles, j'écoute encore ça aujourd'hui, ou des soundtracks historiques des années 70, comme les soundtracks de Philippe Sartre, par exemple les Choses de la vie, j'écoute ça encore aujourd'hui parce que c'est magnifique, avec la fameuse chanson d'Hélène interprétée par Romy Schneider. Mais oui, j'écoute pas mal parce que j'écoute beaucoup de musique instrumentale, donc les soundtracks font partie de ça.
Le soundtrack ultime, ce serait quoi?
Ah, le soundtrack ultime, mais c'est bizarre parce que c'est pas un soundtrack original, c'est une bande, enfin c'est un soundtrack, mais c'est pas une bande originale. Mais j'ai été fort, fort marqué, et encore aujourd'hui, par le soundtrack de Barry Lyndon.
Ah oui. Mais donc ça veut dire qu'il y a aussi des soundtracks où ce sont des chansons, des...
Oui, parce qu'il faut faire la différence entre soundtrack et bande originale. Ouais. Un soundtrack, ben c'est une... j'en ai plein, hein, je veux dire. Par exemple, le soundtrack du film de Sofia Coppola, Marie-Antoinette, il est génial parce que il reprend plein de tubes New Wave des années 80. Mais les bandes originales, c'est autre chose. C'est vraiment des créations pour le film, quoi.
Alors on va parler d'un soundtrack du film Douleur et Gloire, Dolor y Gloria, d'Almodovar. C'était signé, une partition signée Alberto Iglesias,
oui.
Un rapport avec Julio?
Non, aucun rapport.
Et en quoi ça vous touche, cette BO-là, parce que vous l'avez cité en préparant cette émission?
Ben d'abord, Alberto Iglesias, c'est le type qui a fait pratiquement, il faudrait vérifier, mais tous les soundtracks originaux des films de Pedro Almodovar.
On a eu un de Richie Sakamoto.
Oui, juste.
Talon aiguille.
Ouais. Mais d'abord, ça me touche parce que je trouve qu'il souligne tellement bien le travail visuel de Pedro Almodovar. Ce soundtrack en particulier, Dolor y Gloria, me bouleverse parce que je peux l'écouter en continuant à être bouleversé jusqu'aux larmes, encore une fois. Je suis vraiment un bon client pour les larmes, parce que le film, je pense que c'est le meilleur film de Pedro Almodovar, et c'est un film absolument inouï sur un homme qui voit le temps qui passe et qui ne peut plus rattraper. Et je trouve... En plus, il y a des choses, des trouvailles dans le soundtrack d'Alberto Iglesias sur Dolor y Gloria qui sont vraiment très jolies. Notamment, il y a une scène au début du film, je crois, où le type commence à expliquer, c'est Antonio Banderas, où il commence à expliquer qu'il a des bobos partout. Il a mal là, il a mal là, il a mal là, il a mal là. Et on voit dans le film, on ne voit pas lui, on voit une planche anatomique. Et la musique d'Alberto Iglesias qui accompagne ça, c'est tellement beau, c'est tellement gracieux qu'on se dit, bon, si on a des bobos et si on a un Alberto Iglesias qui souligne ça, ça va, moi je veux bien vieillir.
On va écouter Alberto Iglesias, Come Sinfonae, extrait de cette BO du film Dolor et Gloria de Pedro Almodovar.
Sogno, sogno, e tu sei con me. Chiudo gli occhi e in cielo splende già una luce. Baciarti
Thank you.
Soundtrack of My Life sur Radio Rectangle avec notre invité Sébastien Ministru. Après le soundtrack d'Almodovar, vous avez bien sûr reconnu It's a Sin des Pet Shop Boys, un groupe, un duo dont vous collectionnez tous les albums uniquement pour la musique, parce qu'il y a quand même une esthétique, de nouveau une image particulière chez
ah,
les Pet Shop
là,
Boys.
Ah là 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 là, je collectionne tous les Pet Shop Boys. Maintenant, je me suis un peu calmé. Je collectionnais tout. Je collectionnais les albums. Je collectionnais tous les maxis avec tous les remixes. Donc les mix, des remixes. Et à chaque fois, c'était assez joli parce que les visuels qui allaient avec les pochettes des maxis et des albums étaient des espèces de variations comme ça, à partir d'un même motif. J'essayais de collectionner aussi dans les années 80 ce qu'ils portaient. Donc ils avaient des casquettes boy, ils avaient des t-shirts, j'essayais de les trouver à Londres. Parce que les visuels des Pet Shop Boys m'ont tout de suite parlé. Je me suis tout de suite dit, ces garçons, je veux dire, on parle la même langue. Une fois de plus, c'était pas seulement la musique qui était, qui est toujours d'ailleurs pour moi, quelque chose de très émouvant, parce que je trouve qu'ils ont réussi à mettre le disco et la dance au centre d'un univers mélancolique, et ils ont pratiquement transformé le disco en songwriting, quoi, parce qu'il a, Neil Tennant a un talent d'écriture tout à fait presque théâtral qui rejoint pratiquement des grands auteurs anglais comme Noël Coward, des choses comme ça. Mais à cette musique-là s'ajoutait en plus un visuel qui, moi, me touchait beaucoup.
Oui, dans le graphisme aussi, oui, hein,
oui,
dans les lettrines.
C'était tout était très arty, tout était très, très... Alors, il y avait un autre groupe aussi qui me touchait, enfin, encore maintenant, qui m'a beaucoup touché au niveau graphisme et dans les pochettes aussi, que je collectionnais, c'est New Order, parce que, voilà, en tout cas, à l'origine, c'était un groupe du catalogue Factory, et Factory a toujours beaucoup, beaucoup travaillé le graphisme de ses pochettes et de ses visuels, dominé évidemment par un artiste comme Peter Saville, et vraiment New Order, je collectionnais tout aussi. Et donc, ça veut dire que quand il y avait un single qui sortait ou un maxi qui sortait, j'achetais le maxi pour la pochette, mais j'achetais le remix du maxi pour une autre pochette, et j'ai acheté le re-remix, et donc j'ai parfois un même morceau 8 fois, quoi, avec des variations de pochettes de couleurs autour du même motif. Et franchement, je me suis toujours dit qu'un jour j'allais vraiment essayer de les encadrer, ce que je n'ai toujours pas
fait.
Vous
les avez tous gardés?
Je les ai tous gardés. J'ai vendu tous mes vinyles, mais j'ai gardé tous mes vinyles des Pet Shop Boys et de New Order.
Et ça vaut très cher, hein, les maxi, ouais, de Pet Shop Boys, les originaux, ceux de New Order aussi.
Et j'en ai des rares.
Sur le marketplace, ben oui, ça vaut très très cher. On arrive tout doucement à la fin de cette émission. Sébastien Ministru, merci de nous avoir déroulé la bande-son de votre live.
Avec plaisir.
On rappelle l'apparition chez Grasset de votre roman La Garde-robe. On rappelle aussi votre pièce de théâtre cultissime, Cendrillon ce macho, qui est rejouée au TTO, le Théâtre de la Toison d'Or à Bruxelles, jusqu'au 31 décembre. Ouais. Donc une bonne idée pour les fêtes de fin d'année. Vous pensez une adaptation théâtrale de La Garde-robe?
Oui. Hein, mais quelle bonne idée.
N'est-ce pas?
J'avais pas pensé. Moi, j'étais tout de suite parti sur le film, vous voyez.
Carrément.
Je me dis, oui, le film.
Par Almodovar.
Je vois. Pourquoi pas? Ou par François Ozon. Je ne dirais pas non. Mais une pièce de théâtre, j'y avais pas pensé. Oui, pourquoi pas?
Ça serait une bonne idée.
C'est une bonne idée, oui. Je vois. Et tout de suite, j'ai instantanément.
Il y a quelque chose de concret, déjà, ou pas?
Non.
Non.
Non, je serais menteur.
Merci Sébastien, on va se quitter en musique. Votre dernier choix musical, une découverte en ce qui me concerne. Ardenne, ça s'écrit A-R-D-E-N, une artiste et une harpiste d'origine, ouais, allemande. Faites-nous un peu son portrait.
Elle s'appelle en fait Marie Ardenne. Et en fait, elle est connue au départ comme harpiste. Et elle est basée, elle travaille à Berlin. Et là, elle a sorti un premier album où elle joue de la harpe, mais où elle chante aussi. Et elle a travaillé avec Janus Rasmussen, qui est en fait la moitié du duo électro Chiasmos. L'autre moitié, c'est Olaf Urarnald. Et lui, il a travaillé les sonorités électro de cet album. Et ça donne vraiment un truc qui est plutôt... comment vais-je dire ? C'est un paysage sonore, c'est du design sonore.
Ambient pop, j'avais lu
quelque part. Oui, c'est ça. Et moi, je dirais presque que c'est de la techno-folk. vraiment. Et elle chante sur cet album, comme on va l'entendre maintenant.
On va écouter, oui. Merci Sébastien.
Avec plaisir,
vite.
Luc, merci.
Merci beaucoup.
Lay down in oceans we wait to arrive in your eyes come and silently. In the arms of